Merci pour vos prières là où pendant ces 2 semaines où j'étais ailleurs. Et dimanche dernier, je tiens à préciser à Haubourdin que j'ai vraiment eu un accueil très 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 chaleureux. Ça m'a beaucoup beaucoup touché. C'était, voilà, on sentait vraiment les cœurs ouverts aussi. Hein. Voilà, alors ce matin, je voulais vous donner un enseignement que j'ai entendu avec Colette et avec Annette. Pendant le séminaire autour du 11 novembre au château. Hein, c'était le thème marcher en fils, et en héritier et en fils, hein, je crois. Et lors de ce séminaire, il y a une journée consacrée à un enseignement sur le pardon. Une journée complète. Il nous a été rappelé que le pardon est au centre de notre vie et de notre marche avec Jésus. Est-ce que vous le croyez aussi ? Le pardon est au centre de notre vie, de notre marche avec Jésus. Alors on a au Havrin, vous le savez, cette volonté de vivre le pardon. Cela fait partie de notre appel et de notre feuille de route. On a reconnu cela dans cette parole que nous a donnée Étienne Vanhout en juin 2009. Dans votre barque, vous devez emporter le dépôt du pardon et de la réconciliation. Vous vous souvenez? Juin 2009, une semaine avant la venue de Anne Griffy. Est-ce qu'on discerne cet appel dans les circonstances qui nous arrivent individuelles ou en tant qu'Église, dans les portes que le Seigneur ouvre? Est-ce qu'on discerne cet appel? D'accord? Alors je précise que ce qui donnait de la crédibilité à cet enseignement qu'on a entendu, en plus de son fondement biblique, bien sûr, c'était que le pasteur qui l'a délivré l'a fait avec le cœur de Dieu, avec un esprit de compassion, sans légalisme. Parce qu'on peut parler du pardon avec légalisme aussi. Hein. Alors je voudrais le délivrer ce matin avec le même cœur. Et je l'espère avec la même clarté. C'était ma prière avant le message. Comme un verset introductif, je vais citer Matthieu 6, verset 12. Matthieu 6, verset 12. Cette fameuse prière que le Seigneur nous a enseignée, notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On ne peut plus clair. Hein? Mais, ça a été partagé là-dessus, on ne peut pas vivre pleinement dans cette dimension du pardon sans réaliser à la fois l'abomination de notre péché, c'est-à-dire la gravité de notre péché qui nous sépare, qui a priori nous séparait pour l'éternité, et en même temps la profondeur de l'amour de Dieu dans ce mystère de la croix. Quoi. Et quand on le réalise, on est alors sur un fondement solide. On en parlait hier avec Didier et Sylvie, je crois que si on n'a pas réalisé vraiment cette profondeur de notre péché, la profondeur de l'amour de Dieu qui l'a déployé, eh bien, à la limite, on pourrait être un peu comme Caïn, vous savez, Caïn qui croyait pouvoir se passer de la grâce de Dieu. Et c'est ce qui l'a mis en colère quand Dieu a approuvé le sacrifice d'Abel, parce que lui, il avait conscience qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. Donc on a besoin de réaliser que nous ne pouvons pas nous passer de la grâce de Dieu. Et quand on réalise qu'on ne peut pas se passer de la grâce de Dieu, on est plus à même de remporter la victoire d'entrer dans cette dimension du pardon. La loi est bonne, hein, mais si je veux la suivre, je dois être parfait. Donc c'est un fardeau trop lourd à porter. Et on est souvent, disait ce pasteur, entre ces deux domaines que sont la loi et la grâce. Alors quelquefois on réclame la grâce pour nous, mais la justice pour celui qui nous a offensés. C'est pas tout à fait juste. Hein. D'autres fois, on manque de grâce vis-à-vis de nous-mêmes. Et on montre qu'on n'a pas pleinement compris le don de la grâce. On agit comme si on doit encore rembourser à Dieu, alors que lui, il a annulé notre dette. Et quelquefois, vous reconnaissez ça, on balance entre la loi et la grâce. Quelquefois. Rappelons-nous que le manteau du fils prodigue, c'était un manteau de fils et non d'esclave. Il avait des sandales, jamais les esclaves ne portaient des sandales. Il avait la bague au doigt. Et le message ainsi du père était clair. Tu es un fils, non un esclave. Tu n'as plus à rembourser. Rappelez-vous donc aussi l'histoire du mauvais serviteur qui a refusé d'annuler la petite dette qu'il avait alors qu'on venait de lui remettre la grande dette, une énorme dette qu'il avait. Qu'en est-il advenu ? Il s'est retrouvé en prison et aux mains des bourreaux. C'est un peu une image de celui qui refuse de pardonner. Il ne connaît pas encore la liberté. Il est comme en prison. Chers amis, le pardon se partage. Il ne doit pas y avoir dans notre vie ces absences de pardon. Et beaucoup peuvent vivre de chrétiens dans ce donjon tourmenté et sombre du non-pardon. Et oui, le pardon libère, alors que le non-pardon emprisonne et peut même empêcher l'autre d'être ce qu'il est. Et le pasteur a cité deux témoignages par rapport à deux de ses filles. C'était vraiment passionnant. Le premier témoignage, il se promenait avec sa femme et sa fille dans les magasins, et puis sa fille, d'un seul coup, avait vu une belle robe, magnifique robe, mais chère, très chère. Et comme une boutade, sa fille a dit à son papa, « Papa, tu pourrais pas m'acheter cette robe ?» Mais comme une boutade, sans y croire une seconde, parce que c'était pas tellement l'habitude du papa de dépenser tant d'argent pour une telle robe. Et à la grande surprise de sa fille, le papa a dit « Oui, je vais t'acheter cette robe. Tu la veux, je te l'achète. » Mais le papa a découvert que peu avant cet événement, la fille avait libéré un pardon envers son papa, par rapport à certaines frustrations. La fille avait libéré un pardon. Et voyez l'effet ? Le papa a ouvert son cœur et puis a allé dépenser l'argent pour la plus belle robe pour lui offrir, pour lui faire plaisir. Il a raconté un autre témoignage par rapport à une autre de ses filles qui était dans une période où elle s'éloignait du Seigneur. Il a parlé de ce temps où il s'est enfermé dans sa chambre. Vraiment dans ce... parce qu'il avait de la rancœur contre sa fille. Il lui en voulait, en quelque sorte, de s'éloigner du Seigneur. Il avait vraiment un combat. Et il a parlé de son combat en toute honnêteté et transparence, dans sa chambre, avec ce désir de proclamer le pardon, de vaincre la rancœur. Il y avait la voix de l'ennemi qui lui disait « Rien ne change si tu pardonnes. Tu ne pourras jamais pardonner de tout ton cœur. » Et il expliquait que le problème, c'est que lui, il se mettait d'accord avec cette voix. Vous voyez ? Il reconnaissait en toute honnêteté qu'il se mettait d'accord avec cette voix. Alors qu'il y avait une autre voix qui lui disait, ça c'était la voix de Dieu, qui lui disait autre chose. Qui lui disait « Ma grâce est suffisante. » Rappelle-toi, je t'ai aussi pardonné. Et ce pasteur raconte qu'il a été libéré quand il a reconnu son péché de s'être mis d'accord avec la voix de l'ennemi, qu'il a reconnu qu'il avait un esprit de contrôle aussi sur sa fille. Ouais, son problème, c'était l'esprit de contrôle. Et il a eu la victoire plus tard. Il a eu la victoire dans ce moment dans sa chambre. Et un peu plus tard, ça s'est concrétisé par le retour de sa fille envers le Seigneur. Chers amis, jamais le Seigneur nous demande une chose sans nous aider à l'accomplir. Précisons, bien entendu, et ça le pasteur l'a bien dit, le pardon ne veut pas dire que l'offenseur a raison, ne veut pas dire non plus que nous faisons confiance à celui qui nous a offensés, ça ne veut pas dire ça non plus. Ça ne veut même pas dire oublier, mais Dieu nous aidera à oublier si on a du mal. Aucun de nous, ça veut dire qu'aucun de nous n'est habilité à juger les autres. C'est ce que nous reconnaissons quand nous pardonnons. Nous remettons cette responsabilité à Jésus et nous croyons que sa justice prévaudra. Avec cette dimension du pardon, il nous a été parlé de la dimension de la confession aussi. La confession, quelque chose de biblique, elle est encouragée par les écrivains de la Bible. 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. C'est très important d'apprendre à confesser notre péché, de prononcer à haute voix aussi le pardon avec d'autres. C'est très important. Et de comprendre aussi que le péché n'est pas à confesser à Dieu seulement. Là, nous, évangéliques, on a eu un problème avec ça, on a un problème. Jacques 5,16 nous dit, confessez vos péchés donc les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Confessez vos péchés les uns aux autres. La prière de la foi a une grande efficacité. Souvent, je réfléchis à ce passage. Vous voyez, je suis convaincu que le Seigneur veut nous donner de vivre dans cette église la guérison. Et je suis convaincu en même temps qu'on doit saisir peut-être davantage la clé, une clé, d'apprendre à confesser nos péchés les uns aux autres. Alors, ça ne veut pas dire tout déballer, ça ne veut pas dire, mais au moins le confesser à quelqu'un. Je vais vous donner 4 témoignages à ce sujet-là, pour comprendre un petit peu, dont certains vous avez peut-être déjà entendu. Celui que vous avez déjà entendu, c'est comment, avant de démarrer cette église à Wavrin, le Saint-Esprit m'avait convaincu de confesser à un membre de l'église catholique ici à Wavrin mon orgueil spirituel. Et j'ai rencontré Carlos, qui est toujours ici dans cette paroisse. Et j'ai dit à Carlos, je te demande pardon, mais à toi, c'est à l'église catholique que je demande pardon aussi, pour mon orgueil spirituel. C'est-à-dire d'avoir pensé que mon église avait toute la vérité. Jésus a toute la vérité, mais pas mon église. Moi, je reste convaincu des effets de cette démarche qui se poursuivent encore aujourd'hui. Quelques années après, Dieu a utilisé ce Carlos comme un pont pour m'amener en contact avec les prêtres à Wavrin, puis avec d'autres aussi. Et quand je vois toutes les portes ouvertes aujourd'hui, je me dis, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que la confession que j'ai faite a libéré quelque chose. Il y a 2 jours, je parlais, on était invités au temple, il y a un souffle nouveau là au temple à Lille, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a 2 pasteurs qui sont vraiment chaleureux, qui bien, vraiment, Il y a quelque chose, on va les recevoir d'ailleurs cette semaine chez nous, on va boire le café avec eux. Ils ont invité, il y avait un tas de gens qui étaient là, des catholiques qui étaient présents, j'étais surpris que je connaissais. J'ai revu mon prêtre à Aubourdin, il était là, j'ai dit tiens vous êtes là. C'était incroyable. Bon. Et il y avait Victoria Camoggi qui est la femme du pasteur à Villeneuve-d'Ascq, d'Emmanuel Camoggi. Et cette femme est vice-présidente de la Fédération protestante de France. Et elle reparlait de ce moment où elle était présente à loin d'ici, je crois que c'est à Nairobi, à un forum mondial de chrétiens. Et dans ce forum, il y avait des gens de tout bord, de tout horizon, catholiques, protestants, méthodistes, luthériens, tout ce qu'on veut. Ouais, pentecôtistes. Dans ce forum. Et donc, elle racontait, elle l'a entendu, elle a pu témoigner des choses incroyables. Donc, l'atmosphère était un peu lourde quand même. Mais petit à petit, des gens de tous bords, c'est curieux, mais tout le monde parlait de sa rencontre avec Dieu. C'était pas formel, c'était, même si c'était encore un peu lourd, mais il y avait des pentecôtistes qui étaient là et qui n'en croyaient pas leurs oreilles. Dire, mais comment un catholique a pu faire la rencontre avec Dieu ? Et vraiment, le Saint-Esprit leur disait que c'était authentique, quoi. Et le dernier jour, un pentecôtiste s'est levé et tout le monde a dit « Je vous demande pardon, j'étais persuadé de faire partie des seuls, des derniers seuls vrais chrétiens. Pardon pour mon orgueil, pardon pour ma présomption. » Enfin, ouais. Et Victoria Camoggi a témoigné que l'atmosphère a complètement changé. C'est comme si le Saint-Esprit descendait sur l'assemblée. Il a mis une légèreté. Les relations étaient complètement changées. Vous voyez, l'effet de la confession. Confession de nos péchés. Je me souviens très très bien de là, j'étais tout jeune, je faisais une colonie de vacances avec les semailles. Je me souviens, donc j'étais en Suisse. Et je me souviens, j'avais un groupe d'enfants qui n'était pas facile. Hein. Ces enfants, ils venaient de... Vraiment, j'en bavais. Hein. Je vous assure que là, à table, ça parlait dans tous les sens. Et puis, ça mangeait mal. Vraiment, ça se passait bien. Alors, au milieu de la semaine, il y avait des séances de ski. Comme moi, je savais pas trop skier. J'ai dit, je vais rester dans ma chambre et je vais prier un bon coup. Et même la première partie de la semaine, j'étais tellement... pas maître de la situation, que je me suis énervé plusieurs fois, et j'étais même, c'était à la limite, quoi, dans mon attitude, même avec les enfants, quoi. À un moment, j'ai pété les plombs, je pense, un peu. Et dans cet après-midi où j'ai prié, le Saint-Esprit m'a dit, Jean-Luc, tu vas aller trouver un tel enfant, tu vas lui demander pardon, parce que vraiment, dans ta manière de réagir, c'était excessif, dans l'irritation, etc. Et à la fin de la journée, j'ai demandé pardon, etc. L'atmosphère du groupe d'enfants était complètement différente dans cette deuxième partie de la semaine. Je garde toujours en mémoire ce petit événement. Il y a un dernier témoignage, je l'ai dit furtivement il y a quelque temps, et là il est tout récent. Je me souviens où j'étais tombé un peu, à un court moment, dans une négativité, dans une journée de travail à l'Épile. Négativité, c'est-à-dire tout est mauvais. Et vraiment, le Saint-Esprit m'a convaincu que c'était pas juste, quoi, de dire ça. Enfin, j'avais rien à gagner que d'avoir cette négativité. Et le soir, je devais en plus présider à la maison de prière à Thumry, au Château Blanc. Quand on a une journée négative comme ça, j'étais pas bien dans mes baskets. Et donc, on s'est rassemblés à 3 ou 4 pour prier. Et là, le Saint-Esprit, vous voyez, quelquefois, la confession, on peut la faire, on peut expérimenter une libération en l'apportant même à quelqu'un qui n'est même pas concerné par notre péché, en quelque sorte. Et j'ai senti que ça me libérait de dire, écoutez, mes frères, je vous confesse, j'étais très négatif et je demande pardon, Seigneur, je le dis devant vous. Pouf, ça m'a libéré pour la soirée. Et ça a mis un climat de liberté dans la soirée où on était tous dans les bras les uns les autres. On a vécu la grâce, il y a une révélation de la grâce. Voyez l'effet de la confession. Ça libère Il y a quelque chose qui est libéré. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Hein. Là, il y a une guérison des cœurs qui suit la confession. Le péché confessé à l'autre nous donne plus de force aussi pour résister à l'accusateur. Et la guérison du cœur suit la confession. Alors vivre la confession du péché nous amène aussi à redéfinir le péché. Si on est dans la confusion au sujet du péché, il nous sera difficile de vivre la confession et la guérison, vous comprenez? Alors le pasteur a cité un très très bon exemple. Il a cité le cas d'une femme dans son église qui à l'âge de 6 ans a vécu un drame, sa mère s'est suicidée. C'est-à-dire cette petite fille à 6 ans, elle rentre chez elle et elle voit sa mère la tête dans le four à gaz et sans vie. Vous imaginez le choc pour cette petite. Et donc il y avait un blocage dans sa vie, dans la vie de quand cette fille est devenue adulte, il y avait un blocage par la souffrance. Et le pasteur a témoigné que la libération de cette femme, qui a connu ça à l'âge de 6 ans, passer par la reconnaissance que ce qu'a fait sa mère, et je ne dis pas ça du tout pour la condamner, ni la juger, hein. Ce n'est pas un jugement, c'est une femme en détresse. Voilà, personne ne peut lui jeter la pierre, mais il fallait reconnaître que c'était un péché, qu'elle a privé son mari d'une épouse, qu'elle a privé sa fille d'une mère. C'est un péché contre sa fille, un péché contre son mari, un péché contre ses parents, contre ses grands-parents. Et à partir de cette reconnaissance du péché, cette femme a pu pardonner le péché. Vous comprenez, il ne peut pas y avoir pardon du péché s'il n'y a pas reconnaissance du péché. Et cette femme a vécu une libération quand elle a pu pardonner à sa mère. J'en termine avec le récit de, j'en ai fait allusion là, Caïn et Abel, Genèse 4. On relit ce passage, c'est dans Genèse 4. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » C'est surtout sur cette dernière phrase que je porte votre attention. Caïn n'a pas dominé, pourtant là il n'y avait pas d'offense. Il est peut-être en colère parce que Dieu a reconnu que Abel avait ce besoin, ressentait le besoin de la grâce. Mais Caïn n'a pas dominé l'esprit de jalousie qui est venu sur lui, il est devenu un meurtrier. Vous savez, Jésus, dans notre vie, veut nous amener souvent à cette situation où le péché frappe à notre porte par l'offense de l'autre, par le péché de l'autre. Alors bien sûr, il ne faut pas culpabiliser si on réagit dans la douleur au début, c'est normal. Mais à un moment, Jésus nous amène à cette situation où le péché frappant à notre porte, nous disons stop. 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 Jésus nous invite à être comme lui. Il nous en donne la force face au péché, en pardonnant et en scrutant notre réaction au péché de l'autre. On est souvent négligent dans nos réactions au péché de l'autre. Et même ce pasteur avait cette honnêteté de dire, c'est rare que nous disons stop. Et que nous savons bien réagir. Hein, ouais. Et que nous savons un moment dire stop à l'amertume, stop à la rancœur, stop à la colère. Ouais. Jésus nous invite à être comme lui. Le péché frappe à notre porte lorsque nous croisons l'offense, lorsque nous croisons le péché de l'autre. Hein, on le croise souvent dans notre vie. Purifions-nous de tout ce qui nous contamine, corps et esprit. Réglons les choses en nous-mêmes et appelons péché ce qui est péché sans excuser. Hein. Ces négligences dans nos réactions sont comme des déchets qui obstruent les sources d'eau vive et la présence de Dieu. Et ils peuvent nous amener à rester quelquefois à un niveau un peu trop bas de spiritualité. Hein. Ce qui distingue le peuple de Dieu des autres peuples, c'est la présence rafraîchissante de Dieu. Alors purifions-nous. Et si le péché se couche à notre porte avec sa force, disons stop. J'en viens à la conclusion. Et peut-être si le groupe de louanges peut se préparer à prendre un dernier chant, ouais, qui va nous aider à donner réponse peut-être à ce message sur le pardon. D'accord ? Ouais. Je vais lire un passage que ça fait 3 ou 4 fois que je le reçois. Je me dis, Seigneur, là t'insistes, là, il y a quelque chose. Zacharie chapitre 9, verset 9. Zacharie 9, verset 9. Je le lis. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient. Il est juste. Il est victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Et il me semble que les Coréens qui ont prié beaucoup là, cette semaine pour la région, ont reçu ce passage comme un passage dominant aussi. Je l'avais partagé le mardi, puis il y a eu des « Ah, c'est le passage qu'on a reçu ». Tiens, ils ont reçu ça pour la France et pour la région. Qu'est-ce que dit ce passage ? Il nous rappelle que Jésus à Jérusalem est venu monter sur un ânon, le petit d'une ânesse, avant de prendre sa croix et porter nos péchés. Il est venu à nous dans l'humilité. Il avait bien emporté avec lui le dépôt du pardon et de la réconciliation. Hein. Il est descendu de son trône de gloire pour nous rejoindre dans nos bas-fonds. Et son humilité n'était pas signe de faiblesse et de défaite. Mais au contraire, il a précédé la gloire, comme il l'a manifesté dans sa résurrection. Et il le manifestera à son retour. Jésus, chers amis, continue de venir dans ce monde. Et il souhaite monter sur nous. Est-ce qu'on veut bien être ses ânes et ses ânesses? Rappelez-vous, Anne Griffy, c'était dans sa parole pour nous. Vous êtes les ânes du Seigneur. Ses humbles serviteurs. Est-ce qu'on veut bien être ses ânes, ses ânons, pour porter Jésus, son caractère doux, son humilité, son cœur plein de miséricorde. Jésus vient dans ce monde encore. Il veut venir encore dans cette humilité à travers nous. Si on emporte avec nous ce dépôt du pardon, la réconciliation, si on accepte de descendre, d'être sur la petite chaise, comme ça m'est arrivé, hein, cette fameuse histoire où je me suis retrouvé sur la petite chaise que je voulais éviter, ça en vaut la peine. C'est sa force et sa gloire qui vient après, qui viennent après. On prend quelques instants de recueillement pendant que Jacques continue à gratouiller un petit peu, et après on va prendre ce chant. D'accord? Comme une réponse. Jésus règne. Voilà, règne sur moi, règne. Règne. Voilà, je prie pour chacun d'entre nous. Je prie pour chacun d'entre nous afin que vraiment nous soyons tous ensemble cette église qui emporte dans sa barque le dépôt du pardon, de la réconciliation, qui apprend à confesser, que nous apprenions à confesser nos péchés les uns aux autres pour vivre la libération et pour apporter cette odeur de Jésus, ce parfum de Jésus, cette humilité de Jésus, cette miséricorde de Jésus. Quelle belle promesse! Le roi vient dans notre région. Il vient en France, le roi. Mais le français a besoin de descendre de son arrogance. Nous avons besoin de cesser d'être arrogants. Et ça va changer. Et alors les choses vont changer. Ouais. Et alors la gloire de Dieu va venir. Et alors la force de Dieu va se manifester. Sa puissance de résurrection va se manifester. Oh, est-ce que je veux bien être de ceux qui disent stop quand le péché se couche à ma porte? Vous savez, quand j'ai préparé ce message, j'avais un petit peu la conscience tranquille en disant, t'es pas trop concerné toi Jean-Luc. Je suis pas quelqu'un de très rancunier en général, donc j'étais pas. Eh bien si, à un moment le Saint-Esprit m'a montré un endroit où j'avais une petite rancœur. C'était subtil. Une petite rancœur qui pouvait devenir une amertume. Et avec Annette, on a prié, on a demandé pardon. Seigneur, pardon pour cette rancœur. Je veux pas avoir la rancœur. Ouais. Si le péché se couche à notre porte, même s'il vient du péché de l'autre, je ne veux dire stop. Je veux dire stop. Le Seigneur m'en donne la force par son esprit. Ça en vaut la peine. Jésus, règne sur mon cœur. C'est notre prière. On va peut prendre ce chant vraiment comme une prière. Règne sur mon cœur. Amen.